représentants a déjà été acquise au début du mois de novembre. Pour le marché, une victoire démocrate est synonyme de plus de mesures de soutien budgétaire, ce qui est favorable à la bourse, notamment aux valeurs cycliques et bancaires. Autre point positif, la hausse des cours du pétrole à plus de $54 le baril de Brent. L'Arabie Saoudite a décidé unilatéralement de réduire sa production d'or noir d'un million de barils par jour. Cela soutient les cours du pétrole et les valeurs pétrolières. Total termine en hausse de 4,4% ce soir. C'était Céline Pentex, Investir pour RFI.
Ainsi s'achève le journal. Merci à vous de l'avoir écouté.
Décryptage.
Radio G.
101.5 FM.
Et bonsoir à toutes, vous êtes sur Radio G et vous retrouvez maintenant l'oreille curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales et la quotidienne des découvertes. Alors je suis d'abord désolée pour tous les fidèles qui étaient au rendez-vous hier alors que l'émission vous a fait faux bond. D'autres urgences nous attirent parfois en dehors du studio. Mais aujourd'hui, mercredi, vous pourrez profiter d'une émission complète avec le Guichet Choral, la chronique cinéma du mercredi, où aujourd'hui Céleste nous parle de comédie musicale. Il y a aussi le retour de Pierre Hugo. Salut Pierre Hugo.
Salut.
Et tu reviens avec une chronique slash carte blanche slash billet.
Ouais, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur vu l'actualité.
Ok, alors c'est prévu à 18h29, très précisément. On verra si on a suivi le timing. Et pour commencer l'émission, je vous propose de réécouter une interview 100% en bonnes ondes. Nous serons avec Marion McGuinness, autrice du livre Le Tour du Monde du Bonheur. Je sais qu'en ce moment, on a besoin de perspectives joyeuses. Le dicton d'aujourd'hui, car il y en a un par jour depuis septembre, c'est « On ne se souvient que des trains qui n'arrivent pas à l'heure ». Voilà. On me l'a soufflé et je remercie la personne qui me l'a soufflé. On débute en musique avant de parler littérature et bonheur. Et j'ai choisi un titre de Rhône, c'est Ginkgo Biloba. Et ça vient de son album qui est sorti en 2020, Room With A View.
Thank you.
On était avec Rhône et maintenant je vous propose de réécouter Marion McGuinness. C'est une rediffusion, c'est une interview qui avait été réalisée toute fin 2019 à l'occasion de la sortie du livre Le Tour du Monde du Bonheur qu'elle a écrit. Et c'est un livre qui est toujours disponible aux éditions de Buck Supérieur. J'espère ne pas écorcher trop le nom de l'auditeur. On retrouve Marion McGuinness. Pour ce livre-là, vous êtes partie de l'observation ou l'idée peut-être que le bonheur ne se définit pas de la même façon dans tous les pays du monde. Au Danemark, au Pérou, en Inde, au Bénin peut-être.
C'est ça. J'avais, en 2016, j'ai eu la chance de traduire le livre du Hygge, qui parle donc du Hygge, qui est un art de vivre danois.
Et si on est comme moi, qu'on ne sait pas trop bien le prononcer, ça s'écrit
H-Y-G-G-E. Oui, c'est Hygge. Ah. C'est vrai que oui, le danois est une langue très très compliquée à apprendre. Je ne parle pas danois. Et donc j'avais découvert cet art de vivre. Et quelques temps après, j'ai traduit tout autre chose. J'ai traduit le petit livre de l'Ikigai, qui donc là, c'est une philosophie japonaise. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis rendu compte que, en changeant de continent, en changeant de pays, on changeait complètement de façon de voir les choses et d'envisager ce qui pouvait nous rendre heureux, et ça m'a donné envie d'en découvrir encore plus. Donc d'un point de vue personnel, j'ai commencé à lire sur le sujet, et j'ai proposé ce tour de monde du bonheur à une éditrice qui est tombée amoureuse de l'idée aussi, et c'est de là que tout est parti.
Donc en fait l'idée elle vient aussi de votre travail de traduction, de découverte, enfin c'était pas forcément le but pour vous au départ de proposer ce livre-là.
Pas du tout, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes lectures, que ce soit des articles ou regarder des vidéos sur YouTube ou des rapports, enfin vraiment un petit peu de tout, je suis un peu boulimique de tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de façons de voir les choses différentes, et c'était assez fascinant que tant de cultures différentes, tant de façons de vivre différentes, que ce soit à la campagne ou en ville, ou les religions différentes, les générations différentes, finalement, on exprime de façon complètement différente, mais une même quête qui est d'être heureux et de s'épanouir.
Parce que c'est vrai que spontanément, on se dirait le bonheur, bon, c'est le même partout, quoi.
Alors, la notion de bonheur, et je pense que ce qu'on ressent quand on est heureux, oui, ça c'est universel, mais qu'est-ce qui arrive à déclencher cette sensation en nous? Ça dépend de notre environnement, de notre culture, de notre âge aussi, puis de notre personnalité dans une certaine mesure.
On en parlera un peu plus en détail, peut-être
avec
en
plaisir.
Parlant de toutes ces approches, de concepts, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous avez construit ce livre? Parce que c'est vraiment un tour du monde, en fait.
Oui, alors c'est vrai qu'on voulait vraiment... alors, être exhaustif, c'est impossible. On s'est dit dès le début qu'on ne pourra pas être exhaustif. Malheureusement, la maison d'édition a refusé de m'envoyer en voyage dans tous les pays du monde pour faire mes recherches. Bon, j'étais un petit
Quel
peu...
dommage.
Oui, j'étais un peu déçue là, sur ce coup-là. Mais on s'est dit, on va vraiment faire un tour du monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres autour du bonheur et du développement personnel sur le marché. Mais souvent, ce sont 200 pages sur un concept. Et là, on s'est dit, on a envie de faire découvrir beaucoup plus de choses. Et puis, voilà, moi, j'avais pas envie de me cantonner juste à l'Europe ou juste aux États-Unis ou n'importe quoi. Donc, on s'est dit, on part sur les 5 continents et on a trouvé un certain nombre de concepts par continent. Et puis, du coup, enfin, c'est un atlas. Ça se présente vraiment comme un atlas. Donc, les 5 grandes parties, ce sont les 5 continents. Et dans chaque partie, on en a également profité pour mettre un portrait de chercheurs du bonheur. Ce sont des gens pas forcément connus, mais qui travaillent vraiment à rendre d'une certaine façon le bonheur plus compréhensible à leur culture, à leur pays. Donc ce sont soit des chercheurs, soit des scientifiques,
des musiciens.
Il y a vraiment un petit peu de...
Il y a Bob Marley, Desmond Tutu, Boris Cyrulnik.
Voilà, Mike Viking, qui est donc l'auteur du livre de Hygge, qui est devenu vraiment une figure emblématique du bonheur en Europe, en ayant fondé l'Institut de Recherche sur le Bonheur. Et également, par exemple, Albert Einstein, et puis Laurie Santos, qui est, bon, j'avoue, ma petite préférée, c'est le côté féministe qui ressort. Une professeure de psychologie de Yale qui a ouvert un cours de psychologie donc pour les étudiants, ouvert à tous les étudiants, et qui s'appelle Le bien vivre, ou pour être heureux. Et donc vraiment le travail et les devoirs des élèves et des étudiants, c'est de travailler à être plus heureux. Donc, et c'est évidemment sans surprise le cours le plus populaire de la fac, et il est disponible en ligne partout dans le monde gratuitement. Donc n'importe qui peut s'inscrire à ce MOOC, comme on dit, là, ce cours
en ligne
gratuit pour être plus heureux.
Génial. Donc le point de départ du livre, c'est vous découvrez certaines approches autour du bonheur en les traduisant.
C'est ça.
Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a plus d'une centaine dans ce livre-là. Enfin, qu'il y en a beaucoup.
Oui, il y en a pas mal. Alors, chaque concept important se présente en double page. Donc, il y a quand même beaucoup de photos, de très jolies photos. Alors ça, j'avoue que je peux le dire, je peux m'en vanter, parce que c'est pas du tout mon travail. C'est pas moi qui les ai choisies, donc voilà, ça me fait pas trop mousser. Chaque double page fait vraiment un focus, un zoom sur un concept important, comme le hygge, l'ikigai, mais... beaucoup de concepts qui sont beaucoup moins connus, qui n'ont pas encore eu leur livre, en tout cas en France. Et puis je fais des rapprochements avec d'autres sous-concepts, j'ai envie de dire, qui ressemblent, parce qu'effectivement on trouve à la fois des différences, mais des petites choses qui peuvent se relier entre les pays, qui peuvent nous rappeler ceci ou nous rappeler cela dans certaines façons de faire. Et donc je pense qu'on a une cinquantaine de concepts bien développés, mais qu'en tout il doit y en avoir 80, quelque chose comme ça, enfin, dont il est mention en tout cas au fil du livre.
Et c'est assez fabuleux de voir cette diversité d'approches, de façons de voir les choses, de penser, de comment, tout ça juste pour vivre mieux. Alors juste entre guillemets, oui. Hein, parce que c'est, je crois, quand même quelque chose de très important. Et ce travail de documentation, j'imagine qu'il a dû être assez colossal. Comment est-ce que ça s'est fait ?
Oui, il a été. Alors, j'avoue que c'est le livre pour lequel j'ai eu le plus de travail préparatoire. Alors, quand je fais des traductions, bon, je suis à l'aise, il y a pas de problème. J'ai écrit pas mal notre livre dans le domaine de la parentalité, notamment. Ça, j'avoue aussi que je suis pas mal à l'aise. C'est ma zone de confort. Mais là, j'ai dû sortir de ma zone de confort et je me suis documentée pendant pas mal de temps. C'est un projet qui est né il y a un an. Et le livre vient de sortir, donc il y a quand même un an entre l'écriture, la correction, la maquette. C'est beaucoup, surtout ces dernières années, l'édition va très vite. Donc prendre un an sur un projet, c'est quand même c'est considérable. Et donc j'ai beaucoup lu. Vraiment, la source phare, c'est le rapport annuel sur le bonheur de l'ONU. Mmh. Ça, c'est la base. Et puis après, il y a tout ce qui est articles parus dans les journaux en ligne, alors en français ou en anglais, des vidéos YouTube aussi, des blogs, les sites officiels de certains pays qui parlent, parce qu'ils mettent en avant pour faire valoir leur spécificité nationale. Donc voilà. Et puis de clic en clic, de livre en livre, j'ai obtenu assez de matériel pour remplir ce livre.
Vous avez été super ouverte sur tout ce qui se disait sur le sujet.
Voilà, c'est ça. J'essaie vraiment d'aller également dans plusieurs points de vue, de ne pas rester juste sur lire ce que l'Office de tourisme d'Indonésie dit sur le sujet, mais de voir. C'est vrai que maintenant sur Internet, on trouve des sources amateurs vraiment très très diverses, très intéressantes. Il suffit d'aller sur YouTube et on trouve des petits témoignages ou des petits reportages qui sont très très bien faits. On croise avec des blogs voyages, des gens qui racontent qu'ils ont vécu, etc. En faisant des croisements de beaucoup beaucoup de choses, on tombe sur une certaine idée d'une certaine vérité, en tout cas qu'on essaie d'être le plus objectif possible.
Vous entendiez Marion McGuinness, qui a donc écrit Le Tour du Monde du Bonheur, qui est toujours disponible, c'est un livre, c'est chez De Bock Supérieur, l'éditeur. Voilà, toujours en librairie. Vous écoutez L'Oreille Curieuse et on va poursuivre l'émission en musique avec Be True de Isaac Delusion. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, c'est un groupe, et un groupe français. I Et maintenant, on retrouve Pierre Hugo qui nous parle de ses rêves.
Ouais, je me suis réveillé en sueur cette nuit. Alors, c'était pas spécifiquement à cause d'un rêve, c'était plutôt un réveil causé par un cauchemar. Et ce type de cauchemar qui fait vrai, où l'on est parfaitement incapable de réaliser que non, tout ça, c'est pas réel. C'est ce type de cauchemar qui est absurde, mais crédible. Alors bon, j'ai besoin d'en parler. J'ai rêvé, ou plutôt cauchemardé, un monde totalement virtuel. Une société où l'art n'existerait que par écran interposé. Le cinéma serait sur Netflix, la danse, le théâtre, sur YouTube, le chant, le one-man show, sur Facebook, avec entre deux pubs du cirque et de la sculpture. Une société où la visite d'un musée se ferait en réalité augmentée, où l'écoute d'un concert se ferait sur Spotify et les rencontres avec les artistes se feraient par Zoom. Ça se passait en 2020 et tout le monde était admiratif. Mais quelle inventivité quand même! C'est bien, c'est de la résilience. Ils ne se laissent pas abattre, ces artistes. Moi, j'ai cauchemardé que ce qui n'aurait dû être qu'un moyen éphémère de répondre à un moment donné devenait la norme, devenait admis, devenait quotidien. Ça se passait en 2020, et comme la grenouille qu'on met dans une casserole dont l'eau se réchauffe peu à peu, l'endormant et lui faisant réaliser trop tard que ça y est, l'eau est bouillante et qu'elle est cuite. Mais genre vraiment cuite, hein, au sens propre. Eh bien, telle cette grenouille, nous serions habitués à regarder l'art sur un écran de 4 ou 5 pouces. Moi, les lieux me manquent. Rire en cœur et sangloter et vivre avec des gens, du public ça s'appelait à l'époque. Les grandes salles vides ou pleines, l'espace, le sacré d'un théâtre, d'un cinéma, d'un musée, la grandeur d'un chapiteau ou la fosse d'un concert me manque. Enfin, heureusement, je me suis réveillé. Ouf, on est en 2021. Ça va s'arranger, non? Non?
Voilà, c'était un extrait des rêves ou du cauchemar, on ne sait pas trop, de Pierre Hugo. Moi, ça a fait écho et on se retrouvera pour une prochaine chronique dans 2 semaines.
Ouais, c'est ça, dans 2 semaines.
Et puis on espère que d'ici là...
On espère.
Bref, en attendant, sur Radio G dans l'oreille curieuse, on va retrouver le guichet choral, la chronique cinéma de Céleste.
Imaginez que vous parlez à quelqu'un dans la rue et tout à coup il se met à chanter, à danser sur une musique venue de nulle part. Ça semble un peu absurde et pourtant c'est la base d'un genre présent depuis la naissance du théâtre moderne, la comédie musicale. C'est un mélange entre deux genres bien connus, la musique classique et le théâtre, qui avait déjà donné naissance au ballet, à l'opérette et à l'opéra. Même si le terme comédie musicale est de moins en moins utilisé de nos jours, en effet certaines pièces ne sont pas très comiques et l'on préfère le terme de théâtre musical ou musical à l'étranger. Il reste tout de même le terme global utilisé par la majorité lorsqu'on parle de ce type de spectacle. C'est aussi comme ça que l'on appelle, parfois à tort, les films musicaux. Pourquoi à tort ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui, je vais vous parler du rapport comédie musicale-cinéma. Un brin d'histoire d'abord, on retrouve des traces du terme de comédie musicale dans l'Italie du 18e. Il qualifiait les ouvrages mêlant dialogue, chant et parfois danse. Mais c'est au début du 20e que le genre prend véritablement son essor. Dès lors, deux types sont nés. Les comédies musicales qui n'ont pas vraiment de continuité dramatique, on y trouve plus un ensemble de liens autour d'une vague histoire, chaque personnage ayant sa propre chanson sans qu'il y ait forcément de connexion avec les autres. On peut voir ce genre s'exprimer dans Cats, comédie musicale de 1981, composée par Andrew Lloyd Webber, construite autour de poèmes de T.S. Eliot. On a alors une succession de tableaux. Certains se servent de cette construction pour réaliser l'album avant la mise en place du spectacle, dans le but de familiariser le public avec la musique et ainsi créer l'engouement autour de tubes. Cela permet d'attirer les gens dans les salles une fois la scène construite. Et c'est ainsi que sont construites un grand nombre de spectacles musicaux français comme Notre-Dame de Paris, Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, etc. De magnifiques classiques. Extrait Souvenir. En 2000. Il y a aussi les comédies musicales avec une trame narrative distincte. C'est ce qui constitue la plupart des comédies musicales anglophones. Celles-ci construisent leur engouement autour de l'histoire, des thèmes ou bien des comédiens jouant dedans. La construction est bien plus classique puisque les chansons s'articulent toutes autour d'un scénario, chacune faisant avancer l'histoire ou permettant de présenter un lieu, un personnage, à la manière d'une description mais en musique. On n'est pas très loin de la construction de musique de film, puisque des phrases ou des thèmes spécifiques sont utilisés et sont répétés pour la construction musicale de l'œuvre. Dans les plus connus, on peut citer Émile Joly, Le Soldat Rose, ou encore Les Misérables, adaptés du roman de Victor Hugo. Cette dernière a d'ailleurs eu le droit à une adaptation en film par Tom Hooper, ce qui me permet une parfaite transition vers la deuxième partie. Comme on a pu le voir dans une précédente chronique, la musique et le cinéma sont intrinsèquement liés. Le tout premier film parlant, Le Chanteur de Jazz, contenait surtout de la musique et des scènes chantées. Les premiers films avec des chansons ne sont pas considérés comme des comédies musicales, car les chansons ne sont pas le point central du film. Il y en avait juste de temps en temps. Ces films ont tout de même permis de révéler de grands noms comme Jean Gabin, Marlène Dietrich, Maurice Chevalier ou encore Joséphine Baker, figure emblématique culturelle du XXe. Les comédies musicales n'ont cependant pas perdu de temps pour s'importer au cinéma. Dès les années 30, les gros succès de Broadway avaient une adaptation à l'écran, offrant une plateforme à des artistes comme Fred Astaire, célèbre danseur de claquettes. S'en suivent un très grand nombre d'adaptations entre 1930 et 1970, à mesure que leur succès se faisait sur les planches. On peut citer notamment West Side Story, Grease, My Fair Lady ou La Mélodie du Bonheur. Fort du succès des comédies musicales filmées, viennent les créations originales pour le cinéma, réalisées à la même période. Des films devenus aujourd'hui cultes et références absolues comme Le Magicien d'Oz, ayant révélé l'immense star Judy Garland, Chantons sous la pluie ou Mary Poppins. En France, on s'adonne aussi à ce genre, puisque pendant la Nouvelle Vague, mouvement voyant naître des figures comme Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol ou Agnès Varda, de grands films naissent, comme Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne ou Les Demoiselles de Rochefort, tous trois réalisés par Jacques Demy, le seul réalisateur français à avoir su, à ce jour, maîtriser l'art du film musical. Il existe donc deux types de films musicaux. Les comédies musicales, avec la chanson servant le récit, présente en grande quantité, et les films musicaux où les chansons ne font pas vraiment avancer l'intrigue, mais habillent le film. Les biopics de chanteurs et de groupes se classent généralement dans la deuxième catégorie, sauf les films comme Rocketman. Ce dernier se sert d'ailleurs des chansons pour développer une idée ou un moment de la vie d'Elton John. Les films Disney se classent plutôt dans la première catégorie, même s'il n'y a pas tant de chansons que ça parfois. Et là, vous allez me dire, ok Céleste, mais à quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir des chansons ou des danses dans un film? Quelle est l'utilité de tout ça? Je vais essayer d'avoir un point de vue objectif, parce que dire « c'est beaucoup trop bien », ça ne va pas vous avancer. Mais sachez qu'avoir des chansons peut être un argument pour certaines personnes d'aller voir un film. Ainsi, à la sortie de la séance, on peut être tenté d'acheter l'album pour se replonger dans l'ambiance, car c'est bien plus intéressant d'écouter une chanson avec des paroles et les rechanter à tue-tête que d'écouter une musique symphonique. En tout cas, c'est bien plus facile et bien plus populaire. Donc commercialement, c'est intéressant pour les studios, mais aussi culturellement. Un ensemble de chansons fédère souvent une communauté assez importante. Il suffit de voir ce qu'il se passe quand vous vous mettez à chantonner une chanson de Chantons sous la pluie, ou même n'importe quel Disney. Et enfin, cinématographiquement parlant, une scène musicale est toujours intéressante. On a un ensemble de chorégraphies ou de personnes qui chantent, et elles doivent être filmées pour donner le meilleur impact. Dans La La Land, on a le droit à un magnifique plan séquence, c'est-à-dire que la caméra ne coupe pas, et cela pendant 5 minutes, dans lequel Emma Stone et Ryan Gosling nous font un numéro de chant et de claquettes. Leur synchronicité est un point clé dans la naissance de leur histoire d'amour. C'est-à-dire que la réalisation arrive quand même à donner une histoire à cette danse. Mais cela ne date pas d'hier, c'est bel et bien l'héritage des comédies musicales sur scène, durant lequel les acteurs évidemment performent sans que la caméra coupe, puisqu'il n'y a pas de caméra, ce qui permet d'avoir un tel engouement pour des films de la même trempe. Et c'est ça l'utilité des comédies musicales en film, reproduire les sensations que l'on peut avoir dans un théâtre, mais pas seulement. C'est aussi de mettre en musique, de valoriser un moment exceptionnel, ou de sublimer la vie quotidienne. Dans Les Muppets Le Retour, par exemple, la première chanson se déroule sur la vie quotidienne des protagonistes. La scène nous permet de présenter les personnages et leur situation initiale, et la chanson, elle est utile pour rendre le tout entraînant et amusant. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous laisse avec Another Day of Sun du film La La Land, la première chanson, celle qui ouvre le film. Voyez des films et des comédies musicales, chantez et dansez, amusez-vous, prenez soin de vous également. Salut!
Don't. And even when the end
C'est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu, diverti, encouragé dans vos vies. Vous pouvez la réécouter en intégralité sur le site de Radio G à la page de l'Oreille Curieuse. Il y a des podcasts avec toutes les infos sur ce dont on a parlé. On se retrouve demain à 18h10 avec Benoît et la chronique Science, Nature et Environnement. Un reportage sur le service civique et en début d'émission, c'est une surprise. Je ne sais pas encore ce que je vous réserve. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit via les pages des réseaux sociaux de Radio G, Facebook, Instagram et même Twitter, ou par mail à prog.radiog@gmail.com. Et à 19h, dans quelques minutes, vous retrouvez Bande Geek Mafia, puisque nous sommes mercredi. Et oui, je redécouvre cette information, il était temps. Passez une très bonne soirée, à demain, et je vous remets sur la programmation musicale de Radio G. Vous allez écouter Spy Kitty avec Sweet Nothings. À demain. You that this sweet, sweet nothings. I told you that this sweet nothings.
101.5 FM.
Social media for them, ah, the memory of his them, ah, Ricky Stereo and the governor warned them, the memory are about to receive coming straight from heaven, heaven. We are human up like Satan coming straight from heaven, heaven. The memory are about to receive coming straight from heaven, heaven. You meant up like seven coming straight from heaven. Excuse me, please, I would like to say a word. Maybe you weren't paying attention, probably your neighborhood. The crazy things we do, that's absurd. So face the mirror, around your lines, the truth figured. Well, we not gonna be judged nor condemned. Speak the truth, you know, see that the world in a problem. But not think twice, we betray them friends. Honesty, lying to them words, not exist again. The memory are about to receive coming straight from heaven, heaven. We are coming up like seven coming straight from heaven, heaven. You're about to receive coming straight from heaven, heaven. We are human up like signal coming straight from heaven. Melody, get to the root and find the truth. No delay, we full of bad mind. Covicious and envy till we cry of antivirus. Say bad mind, and not today day. And we download the apps to keep the evil away. So the curfew bad mind, and blade up that in a spray. How much Canada could have a war with that day? When one done and next one right away, you go back and forth, crush up like we are a pen relay. The memory you're about to receive coming straight from heaven, heaven. We are human up like seven coming straight from heaven, heaven. The memo you're about to receive coming straight from heaven, heaven. We are human up like seven coming straight from heaven. To make the green them do anything for profit. Who can crack on all human them traffic? On the street you feel somatic, then we click it for your pocket. Corruption in high places, they got like a rocket. Hold on a little bit, yeah, baby, just tell me Ricky Stereo. If they knock up on the internet, TV and the radio, all over the world, we see all the terror and the starvation of flow. Climate change, no hoax, and this is real, don't you know? The memo you're about to receive coming straight from heaven, heaven. The argument up like seven coming straight from heaven, heaven. The memo you're about to receive coming straight from heaven, heaven. The argument up like seven coming straight from heaven. The memo you're about to receive. Ricky Stereo said the memo you're about to receive. The governor said the memo you're about to receive. Coming straight from heaven, heaven.
Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace and not the money. They maintain their fear. Feel better manipulating us. They maintain their fear. Boy, they destroy many countries and rebuild them only if you earn the money. It's on the fed that they have attack Afghanistan and Iraq. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Personally, I prefer the peace
101.5 FM.